Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. La Suisse condamnée pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. Inacceptable, scandaleux, réagit l'UDC, premier parti helvétique. Il demande le retrait de la Suisse du Conseil de l'Europe. Nous irons à Genève. La Turquie décide de restreindre ses exportations vers Israël tant que la guerre à Gaza se poursuivra. Israël promet des mesures de rétorsion. Nous joindrons Marie-Pierre Véraud à Istanbul. Bercy demande aux collectivités locales de contribuer à la réduction de la dette publique en réduisant leurs dépenses de fonctionnement de 0,5% par an. Pas question, répondent les élus. Et puis les jeunes délaissent de plus en plus les livres pour les écrans. Parmi les 16-19 ans, un garçon sur cinq n'aime pas lire. Nous chercherons comment y remédier. La Suisse doit se retirer du Conseil de l'Europe. C'est la déclaration pleine de colère du premier parti helvétique, l'UDC, à la condamnation de la Suisse pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. La formation de droite radicale juge l'arrêt de Strasbourg inacceptable, parle de scandale et se dit donc prête à claquer la porte du Conseil de l'Europe. Au-delà de cette réaction épidermique, intéressons-nous au fond. La plainte déposée devant la CEDH provenait d'un collectif de femmes seniors convaincues que les manquements des autorités violaient leurs droits à la santé et à une bonne qualité de vie. Mais qu'est-ce qui vaut la Suisse d'être le premier pays ainsi condamné ? A-t-elle plus à se reprocher que ses voisins ? Analyse du correspondant en Suisse de RFI et France Culture, Jérémy Lange.
La politique climatique de la Suisse, c'est un peu un pas en avant, deux pas en arrière. Le pas en avant, c'est la loi sur le climat, adoptée par référendum l'an passé. Elle doit permettre d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, mais, et c'est aussi pour ça qu'elle a facilement été adoptée, elle ne prévoit aucune interdiction, que des incitations. Les Suisses sont en effet très attachés à leur train de vie. Ils prennent plus l'avion que leurs voisins, consomment trois fois plus de plastique qu'eux. Leur parc automobile fait de grosses berlines et de SUV est l'un des plus polluants. Alors pour contrebalancer tout ça, la Suisse a une solution. Elle finance des projets de réduction des émissions à l'étranger. Mais c'est un peu triché, reconnaît Augustin Franière, chercheur au Centre interdisciplinaire de durabilité de l'Université de Lausanne.
Si les compensations sont présentées comme un effort supplémentaire, donc des émissions à la source, à la rigueur, ça pourrait passer. Mais quand elles sont présentées comme participant à la réduction des émissions territoriales, là, clairement, à mon avis, c'est un abus de langage. C'est non seulement contre-productif, mais c'est une manière de gonfler un peu artificiellement les progrès qui sont réalisés.
Alors c'est vrai, la Suisse a un avantage, ce sont ses nombreux barrages hydrauliques qui lui fournissent une bonne partie de son électricité, sauf l'hiver où elle doit importer du courant. Ses forces sont d'ailleurs souvent ses faiblesses. La Suisse, c'est sur le papier 0,1% des émissions mondiales, mais si on ajoute l'impact de la puissante place financière, la Suisse devient alors responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre.
Jérémy Lange à Genève. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté deux autres recours venus de France et du Portugal, mais c'était pour des questions de procédure. La condamnation d'un État pour inaction climatique est une première. La décision de la CEDH est juridiquement contraignante et elle devrait faire jurisprudence dans les 46 États membres du Conseil de l'Europe. La présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain, salue donc un jugement historique.
C'est une décision historique puisque c'est une décision qui a condamné la Suisse pour son inaction climatique et qui reconnaît la responsabilité des États dans la protection effective des citoyens contre les effets néfastes du réchauffement climatique. C'est quand même une reconnaissance extrêmement forte. C'est-à-dire que la question qui était posée là par les requérantes ensuite, hein, par notamment des femmes âgées, c'était reconnaître dans le droit que les droits humains sont affectés, sont affaiblis quand les États ne jouent pas leur rôle d'agir contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on a besoin que le droit commence à affirmer cette responsabilité et soit à nos côtés pour rappeler qu'il y a un enjeu de protection de la part des États, de leurs citoyens et de leurs citoyennes. Ça remet les responsabilités à la bonne place, c'est-à-dire que on a tous des responsabilités individuelles, chacun prend sa part, mais il y a une responsabilité extrêmement forte de la part des États de mettre en place des politiques collectives pour lutter contre le réchauffement climatique.
Cyrielle Chatelain répondait à Sophie Delpont et ce n'est qu'un début, se réjouit aussi la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg. La Commission européenne ouvre une nouvelle enquête contre des fabricants chinois soupçonnés d'avoir reçu des subventions faussant la concurrence sur le marché européen. Mi-février, Bruxelles avait ouvert sa première enquête dans le cadre de la nouvelle réglementation anti-subvention. Elle portait sur un constructeur ferroviaire. Elle s'est ensuite intéressée au secteur des panneaux photovoltaïques et cette fois, ce sont des fournisseurs chinois d'éoliennes qui sont visés. L'eau continue de monter en Russie et au Kazakhstan, frappée par des inondations majeures, notamment le long du fleuve Oural. Et le pic n'est attendu que demain. Aujourd'hui, les autorités russes ont annoncé 6500 évacuations et plus de 10550 maisons inondées dans des régions russes situées dans l'Oural et en Sibérie. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes en direct d'Orenbourg, la capitale de la région russe la plus touchée par ces inondations majeures, où les habitants regardent toujours les eaux monter.
Oui, j'ai croisé tout à l'heure le propriétaire d'une maison inondée qui en revenait tout juste en bateau. Verdict, 10 cm de plus et de l'eau jusqu'à la poitrine, m'a-t-il dit. Et ici, ce sont des dizaines et des dizaines de maisons qui sont inondées par les eaux de l'Oural, qui est tout proche de son plus haut historique, nous disait le maire de cette ville industrielle de 500 000 habitants. Ce matin, à Orenbourg, ce sont les quartiers de Datcha, ces petites maisons individuelles en bord de rivière, qui sont les plus touchées. Et dans toute cette région du sud de l'Oural, c'est la même chose. Un peu plus à l'est, à Orsk, c'est encore pire. Là, l'eau a atteint carrément le toit des maisons à deux niveaux. Tout cela parce qu'il a énormément plu, mais surtout parce que les températures sont remontées extrêmement vite cette année. On est passé de la grosse doudoune d'hiver au t-shirt en trois jours, me disait un habitant. Du coup, la neige a fondu, les glaces sur les fleuves ont cédé à une vitesse folle, d'où ces crues historiques, les pires depuis 80 ans dans la région.
Et puis le phénomène a été amplifié par la rupture de digues.
Oui, au moins trois digues ont cédé dans la région, une surtout dans la ville d'Orsk, à 250 km un peu plus à l'est, dont la rupture a eu les conséquences les plus importantes, ce qui a provoqué une certaine exaspération chez certains sinistrés qui pointent du doigt le manque de moyens et de réaction des pouvoirs publics, ce qui leur a valu cette réponse cinglante du ministre russe des situations d'urgence. Nous avions annoncé la crue depuis une semaine, certains ne l'ont pas pris au sérieux, c'était à eux d'évacuer, a dit cet ancien garde du corps de Vladimir Poutine, le président russe qui ne vient ne viendra pas sur place, a dit le Kremlin, mais qui se tient informé.
Sylvain Tronchet, vous étiez donc en direct d'Orenbourg, dans le sud de l'Oural, en Russie. En Tchétchénie, le régime de Ramzan Kadyrov vient d'inventer un nouveau type de censure. À partir du 1er juin, musique et chorégraphie devront respecter un certain rythme pour être autorisées. Il sera formellement interdit d'écouter des œuvres dont le rythme ne se situe pas entre 80 et 116 battements par minute. Une fourchette extrêmement précise, Olivier Poujade.
La sélection est drastique, à peine 80 BPM pour ces chants traditionnels de femmes du nord du Caucase, tout juste validés par le nouveau label Kadyrov. Avec 118 au compteur, le très populaire DJ Tchétchène se retrouve, lui, en léger excès de BPM. Ce standard musical imposé par le régime est particulièrement lent par rapport à la production d'aujourd'hui, surtout celle qui arrive d'Occident. Cet Occident considéré comme décadent par Kadyrov, l'Occident et ses musiques électroniques, house, techno, trance, des styles auxquels s'identifie une grande partie des communautés homosexuelles. Le régime Kadyrov les persécute depuis 2017, violence, arrestation, humiliation. Elles sont évidemment visées par cette nouvelle loi liberticide qui interdit aussi les morceaux les plus lents, les adagios, l'argo et l'arghetto de la musique classique se situe tous en deçà de 80 BPM, comme cette œuvre magistrale d'Alexandre Alexandrov. Et là, Ramzan Kadyrov, le fidèle fantassin de Vladimir Poutine, a peut-être commis un impair, puisque l'hymne national de Russie ne plafonne qu'à 71 petits BPM.
Olivier Poujade. Le Hamas examine en ce moment une proposition de trêve à Gaza accompagnée d'une libération d'otages. Une offre jugée très sérieuse par Anthony Blinken. Elle devrait être acceptée, déclare le secrétaire d'État américain. Pour l'instant, les opérations militaires israéliennes se poursuivent dans la bande de Gaza. Par ailleurs, Israël hausse le ton vis-à-vis de la Turquie, promettant des mesures de rétorsion à l'encontre d'Ankara. La Turquie a en effet annoncé qu'elle allait restreindre l'exportation d'un certain nombre de biens, dont l'acier, le ciment ou encore les engrais, jusqu'à ce qu'Israël déclare un cessez-le-feu à Gaza. Cette décision a été prise par un président Erdogan sous pression, Marie-Pierre Véraud.
54 familles de produits sont concernées par ces restrictions sans que leur niveau soit précisé. Aluminium, acier, ciment, pesticides, engrais, produits chimiques, matériaux de construction ou encore kérosène. C'est environ la moitié des exportations turques vers Israël qui sont concernées. Cela fait des mois que ce commerce fait polémique en Turquie. L'opposition a dénoncé à plusieurs reprises l'exportation de matériaux qui pourraient être utilisés par l'armée israélienne dans son effort de guerre. Des bannières appelant à rompre des relations honteuses avec Israël ont même été déployées lors de rassemblements du président Erdogan durant la campagne pour les municipales. Et le week-end dernier, une manifestation sur le même mot d'ordre a été violemment réprimée à Istanbul. Les images sont devenues virales. Le président turc estime en fait avoir perdu de précieuses voix lors des dernières élections en raison de la poursuite de ce commerce effectué notamment par des sociétés détenues par des proches du pouvoir. Le parti islamiste qui lui a ravi la vedette a lui bruyamment fait campagne sur la rupture de toute relation avec l'État hébreu tant que la guerre à Gaza se poursuivra. C'est justement la condition qu'a donnée ce matin le ministre du Commerce turc avant de lever ses restrictions. Une décision prise avec 185 jours de retard, commente l'opposition.
Marie-Pierre Véraud, correspondante de France Culture en Turquie. Les écrans attirent de plus en plus les jeunes Français au détriment du livre. La tendance se confirme. Plusieurs enseignements ressortent de la nouvelle étude du Centre National du Livre sur les habitudes et goûts littéraires des jeunes de 7 à 19 ans. Le temps quotidien consacré à la lecture continue de baisser. Les jeunes passent même 10 fois plus de temps sur les écrans qu'à lire. Et si le décrochage intervient en moyenne à l'adolescence autour de 15 ans, il se fait plutôt chez les garçons dès 10 ans. À partir de 16 ans, la moitié des garçons lisent encore sur leur temps libre contre 74% des filles. Mais il n'y a pas de fatalité aux yeux de Marie-Christine Ferrandon, présidente de l'association Lecture Jeunesse. Selon elle, il existe des leviers d'action pour ramener les jeunes garçons à la lecture.
Les garçons peuvent pâtir d'une représentation de la lecture dans la société qui serait genrée, qui serait associée aux filles, aux femmes, aux mères, parce que les lectures à l'enfance, ce sont des lectures le soir dont ils gardent un souvenir délicieux. Et souvent les lectures par la mère, beaucoup moins souvent par le père. Donc c'est à l'ensemble de tout le monde d'essayer de changer le regard que les jeunes ont sur la lecture et le livre. D'inciter à l'école, par exemple, enfin au collège, tous les professeurs, quelle que soit leur discipline, d'indiquer des livres qu'on n'associe pas lecture à professeur de français. Un autre levier possible, ce serait peut-être de leur conseiller des livres qui ne soient pas uniquement des romans ou qu'ils associent à des lectures pour filles, mais des livres qui puissent correspondre aussi à des centres d'intérêt, goût pour les sciences, goût pour la technologie. Il n'est pas la question de dire que les garçons ne liraient que des documentaires et que les filles ne liraient que des romans. Mais c'est qu'on doit de diversifier pour tous. Et des actions concrètes, on peut en conduire. Il faut recréer pour l'an du collectif des moments où on crée ensemble, se faire écrire un livre collectif par des jeunes. Dans ces actions, les garçons se révèlent des lecteurs intéressés à partir du moment où on les a valorisés. Et de faire la lecture, donc aussi un moment d'activité et non pas un moment passif et solitaire.
Marie-Christine Ferrandon de l'association Lecture Jeunesse, jointe par Jeanne Serrin. Pour les loisirs, les jeunes se tournent en priorité vers les BD et les mangas. À noter que près d'un jeune sur deux a déjà lu un livre numérique et 42% disent avoir déjà écouté un livre audio. Le Haut Conseil des finances publiques locales s'est réuni ce matin à Bercy à l'initiative du ministre de l'Économie. Bruno Le Maire a demandé aux représentants des collectivités une contribution à la réduction de la dette publique. Autrement dit, une baisse de leurs dépenses de fonctionnement. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
La réunion a duré 3 heures. Et elle s'est achevée sur un constat de désaccord.
Oui, Bruno Le Maire a fait valoir que tout le monde devait apporter sa contribution à la réduction de la dette publique, y compris les collectivités territoriales. Il leur a donc demandé de réduire leurs dépenses de fonctionnement de 0,5% pour les années à venir, alors que celles-ci ont augmenté de 1% l'année dernière. Le président du comité des finances locales, André Léniel, qui participait à la réunion, a calculé que pour les 5 prochaines années, c'est une économie de 15 milliards d'euros qui est demandée aux collectivités, et selon lui, ce n'est pas acceptable.
On nous a simplement dit, en gros, il faut que vous soyez au rendez-vous. On ne nous a pas dit comment. Donc, ce serait à nous, en plus, de proposer les mesures d'économie qu'on compte faire. Pour l'instant, il n'y a pas de calendrier établi, sauf qu'on nous a dit qu'il faudrait qu'on nous revoie d'ici 2 mois. Mais ça va s'arrêter, parce que si c'est pour à chaque fois nous expliquer que nous devons dépenser moins, il est évident que ça relève du dialogue de sourds et que ça s'arrêtera.
Les départements de France étaient représentés ce matin par le président du département du Calvados, Jean-Léonce Dupont, et lui a fait valoir que l'État est schizophrène. Car d'un côté, il génère des dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales, et de l'autre, il leur demande de faire des économies.
Je prends la prestation de compensation du handicap. En 2008, le reste à charge pour les départements, c'était 1%. En 2022, le reste à charge pour les départements, c'est 68,6%. Sur le RSA, en 2009, le reste à charge des départements, c'était 11%. En 2022, le reste à charge, c'était 45%. Donc, vous le voyez bien, vous avez un désengagement réel de l'État qui est compensé par la collectivité qui fait cet effort de dépense. Et donc, les mêmes vont vous expliquer qu'il faut financer plus et en même temps diminuer le montant de vos dépenses. Il faut quand même à un moment donné avoir un minimum de cohérence.
Les départements, les communes et les régions ont donc émis une fin de non-recevoir au ministre de l'économie et à tous les hauts fonctionnaires qui l'entouraient ce matin. L'un d'entre eux a rétorqué que si le gouvernement n'était pas écouté, il pourrait y avoir des conséquences douloureuses pour les collectivités à l'occasion des discussions budgétaires à l'automne prochain.
Stéphane Robert. Autre sujet de tension, le projet de réforme de la fonction publique attendu à l'automne. Le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, a lancé à Paris les concertations avec les collectivités, les hôpitaux et les syndicats. Mais les points de divergence sont nombreux. Que sait-on pour l'instant de cette réforme, Catherine Pétillon ?
À ce stade, pas de projet de texte, mais de grands axes de réforme de la fonction publique présentés ce matin dans une ambiance qualifiée de fraîche par les syndicats. Statut ne veut dire ni statu quo, ni absence d'efficacité, précise le document du ministère. Derrière cette formule, deux sujets particulièrement inflammables mis sur la table par le gouvernement. L'organisation de la fonction publique selon les trois catégories, A, B et C, elle structure aujourd'hui les métiers et les rémunérations des fonctionnaires, mais l'exécutif les juge en décalage croissant avec les évolutions de l'emploi et des métiers, sans plus de précision sur ce qu'il compte changer, suscitant l'inquiétude des syndicats et en partie des employeurs. Autre point conflictuel, la rémunération au mérite. Opposée, les syndicats soulignent par ailleurs que les dispositifs déjà existants sont peu utilisés. Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonction publique.
On continue de regretter le fait que le gouvernement refuse de négocier, parce que sur les ambitions, on peut se retrouver. Rendre la fonction publique plus attractive, on est d'accord. Faciliter les recrutements, on peut y travailler. Valoriser l'engagement professionnel des agents avec des meilleurs déroulements de carrière, on est prêt à négocier. Améliorer l'attractivité, y compris en regardant les niveaux de salaire, on est d'accord pour en discuter et même on le revendique. Donc, on dit au gouvernement, négocions d'abord, remettons les choses dans l'ordre.
Faut-il une nouvelle loi pour la fonction publique ? Politiquement, le ministre Stanislas Guérini y tient, lui qui a dû même batailler pour garder un ministère de plein exercice lors du dernier remaniement. Des réunions avec les représentants des agents et des employeurs sont prévues jusqu'au 20 juin.
Catherine Pétillon. Des perquisitions ont été menées aujourd'hui sur des sites des groupes chimiques Arkema et Daikin. Perquisitions menées dans le cadre d'une enquête sur la contamination au PFAS, polluants éternels, dans la vallée de la chimie. C'est le soulagement dans le nord-ouest où la vigilance a été abaissée au niveau jaune. La conjonction des grandes marées et de fortes vagues en lien avec la dépression Pierrick faisait encore craindre des submersions ce matin du Finistère au Pas-de-Calais. Ces risques d'inondation sont de plus en plus récurrents et le recul du trait de côte qui aggrave ces phénomènes menace 20% du littoral français. Alors comment les communes s'adaptent-elles ? Constance Strebel et Tom Soriano ont interrogé Dominique Cap, maire d'hiver droite de Plougastel d'Aoulas dans le Finistère, également président du groupe de travail littoral au sein de l'Association des maires de France.
Les tempêtes reviennent venant de plus en plus régulièrement, donc on est obligé d'anticiper sur du moyen et long terme. On a aujourd'hui un système d'alerte téléphonique, d'alerte SMS, de relations entre les maires, la préfecture, les services de secours, d'incendie, de gendarmerie. Au niveau des communes, on peut effectivement mettre des grosses roches, faire des murs anti-vagues. Voilà, on a un système de prévention qui fait qu'on anticipe de mieux en mieux et de plus en plus tôt. On a parfaitement identifié, un, le nombre de communes, deux, les endroits sensibles, et on fait surtout du curatif. Quasiment toutes les communes ont intégré le plan de prévention des risques et submersions, c'est-à-dire que des maisons qui se construisent dans des zones à risque, ça devient quasiment très très faible aujourd'hui. Les plans locaux d'urbanisme font que ça n'est plus possible, ou quasiment plus possible. Mais on parle de logement, il n'y a pas que les logements, il y a des activités. Un ostréiculteur, c'est souvent collé à la mer, donc il y a aussi des dangers pour les activités professionnelles. Et on est obligé d'anticiper. Le problème qu'il y a, c'est qui va payer ? Les assurances ne veulent pas payer, l'État ne veut pas payer, il est hors de question, soit aux collectivités locales de payer. Donc, actuellement, il faut trouver un fonds pérenne pour financer ce recul de près de côte.
Le maire de Plougastel d'Aoulas, Dominique Cap. Demain, il y aura encore des nuages et de faibles pluies sur la Bretagne et la Normandie. Mais ailleurs, la tendance sera à l'amélioration. Les températures minimales seront comprises entre 2 et 11 degrés. L'après-midi, il fera généralement 13 à 16 degrés, jusqu'à 19 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.